Bonjour à tous. Avant d'en venir à partager une parole fraternelle avec vous, j'ai deux choses à vous communiquer tout d'abord. Une première, c'est de remercier toute la belle équipe qui était présente hier, la belle petite équipe, d'avoir pu faire de ci et de là quelques nettoyages de fond bien nécessaires. Merci à vous, je ne vous nomme pas. Et je sais que le Seigneur se réjouit aussi de ce que vous avez pu faire. Et vous verrez, pour ceux qui avaient le désir de peut-être se joindre, il y aura encore une autre occasion très très prochainement. Cela sera dit tout à l'heure en annonce. Donc je ne vais pas le faire maintenant. Autre information plus difficile cette fois-ci. Alors pour peut-être ceux qui sont très en lien avec Sarah Da Silva et qui se rappellent un petit peu aussi cette famille qu'elle nous avait invité à porter dans la prière. La famille de la petite Élise. Une petite fille qui était celle d'une collègue, je crois, apprenait que voilà, nous avons prié pour elle, liée à cette maladie très rare qu'elle avait, cette forme de cancer qu'elle combattait déjà depuis très longtemps, cela faisait 6 ans, je crois. Malheureusement, cette petite fille, cette jeune fille, est décédée très récemment. Et je vous invite, parce que je sais que pour beaucoup, vous avez porté non seulement Élise dans la prière, pour que elle puisse tenir bon face à la maladie, et elle a tenu bon longtemps, bien au-delà de ce que, je pense, le corps médical espérait ou s'attendait, mais vraiment que vous puissiez porter aussi sa famille. Et je vous donne juste les prénoms, parce que moi-même, je ne les avais oubliés, et je remercie Sarah de l'avoir mis par écrit là, mais pensez à son papa Franck, à sa maman Vanessa, mais aussi à ses deux frères qui étaient plus grands qu'elle, Charles et Jules. Vraiment, portez-les aussi dans la prière, qui ne connaissaient pas complètement le Seigneur, mais par l'occasion de Sarah notamment, a eu l'occasion aussi d'en entendre un peu parler et de savoir que nous prions pour beaucoup pour eux. Voilà, continuons de le faire, que le Seigneur puisse effectivement, comme le dit Sarah, les consoler, les entourer de son amour et aussi placer sa paix dans leur cœur. Car on ne peut imaginer la douleur d'avoir perdu un jeune enfant si tôt. Voilà. Alors c'est un peu difficile parfois de redémarrer tout de suite après cela et de vouloir partager cette parole, mais nous avons eu pour plusieurs, et certainement aussi pour vous qui prenez le temps de lire sa parole régulièrement, d'avoir eu l'occasion de parcourir l'Épître aux Romains, une épître très riche, très dense aussi. Et cette année, ce fut un peu le texte qui à jalonner les rencontres bibliques habituelles du mardi pour le groupe d'études. Et c'est une épître en soi qui est presque incontournable, qui fut notamment une révélation et un déclencheur pour un certain Martin Luther, celui qu'on appelle aussi le premier des réformateurs, qui a, à travers cet écrit de Paul, en tout cas celui-ci en premier, redécouvert la valeur de la grâce divine. Alors, je ne vais pas vous faire tout un résumé de l'Épître aux Romains ce matin, soyez rassurés, ce serait bien trop dense et compliqué, mais j'aimerais m'arrêter sur un texte qui nous avait posé question quand nous l'avions abordé, et qui, je crois, pour tous ceux qui l'ont parcouru, certainement vous a laissé au moins en partie perplexe. Car Paul y fait usage de termes à la fois troublant et à la fois puissant dans ce qu'il décrit là, et qui semble être aussi son expérience personnelle. Alors, plus que d'en parler sans vraiment le lire, je vous invite, mieux encore, à prendre bien sûr l'Épître aux Romains dans son chapitre 7, et nous irons lire à partir du verset 14 et jusqu'au verset 25. Chapitre 7 de l'Épître aux Romains, des versets 14 jusqu'à la toute fin, c'est-à-dire jusqu'au verset 25. Voilà. Et pour ceux qui n'auraient pas de Bible ou d'application, la traduction est affichée là, juste à côté de moi. Alors, écoutons. Voilà ce que dit Paul. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je découvre ainsi cette loi. Lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Et dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon corps. Elle combat la loi qu'approuve ma raison, et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé, moi-même je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. Et nous arrêtons là notre lecture. Comme je vous l'ai dit auparavant, les mots de Paul ici sont très forts et peuvent nous laisser vraiment dans un fort étonnement. Et cela peut surprendre. Surtout qu'ici, Paul, quand il s'adresse aux Romains, aux chrétiens de Rome, il emploie le « je ». Il n'arrête pas de dire « je ». Et surtout, il le fait au présent. Alors, en l'entendant dire ainsi « je » et « au présent », nous pouvons y percevoir comme un témoignage d'une lutte personnelle, celle du chrétien, tel que Paul, face au péché dans son quotidien. Alors, on pourrait se sentir très mal à l'aise parce qu'on se dit « attention, c'est quand même Paul ». Mais je ne vais pas plus loin. Et je vous pose déjà une question. Si nous le regardons sous l'angle d'un témoignage d'une lutte personnelle que Paul nous livre là, tel que parfois nous en avons l'occasion quand l'un ou l'autre vient ici donner son témoignage, est-ce là le propos véritable de Paul? Est-il vraiment en train de délivrer un témoignage personnel et dire « ça va pas, j'y arrive jamais » parce que c'est un peu ce qu'on entend, hein? Ou de reposer la question encore autrement, la vie chrétienne est-elle une lutte incessante, voire désespérée contre le péché? Parce que tout ce passage-là est plutôt sous l'angle de la désespérance, ou presque. J'espère ne pas trop exagérer. Oups ! Les notes prennent la tangente. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas exactement ce que Paul veut dire, à quoi Paul nous invite-t-il donc ici, dans ce passage? Voilà un peu la question, le questionnement que je me pose et que je vous laisse aussi, et vers lequel nous allons essayer de cheminer ensemble. Et je reviens à nouveau sur ce passage. En soi, il n'y a pas à dire. Ce passage de cette lettre aux Romains est à la fois saisissant, poignant même. Ce récit, presque un témoignage par cette description à la première personne d'une lutte entre et la vie et la mort spirituelle, entre la désobéissance et l'obéissance. Tout ce que nous entendons là, dans cette manière dont c'est décrit, et jusqu'au dernier verset, ça prend aux tripes. Ça ne peut nous laisser indifférents. Car ce que dit Paul semble rejoindre au moins partiellement notre quotidien. Et je ne vous demande surtout pas d'acquiescer ici. À vous de voir. Et quand nous entendons Paul, si nous le regardons ainsi dans ce qu'il cherche à dire, on peut y voir comme une forme de cercle vicieux. Par ce célèbre cri du cœur de l'apôtre, « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort ?» Et c'est quasiment la note finale de ce qu'il vient de dire là. Or, face à ce texte que j'ai qualifié de poignant, de saisissant, il faut l'avouer, nous ne sommes pas les seuls, mais maintes fois dans l'histoire des hommes de Dieu, qu'ils soient biblistes, théologiens, tout ce que vous voulez, ont longuement discuté, réfléchi sur cela, ont d'ailleurs débattu depuis même le début de l'histoire de l'Église pour ne pas s'y perdre et surtout essayer d'en résumer l'enjeu. Alors, de ce qui en ressort, quand on regarde à ce que déjà d'autres avant nous ont compris ou essayé de comprendre, il y a deux grandes interprétations sur ce que dit Paul ici, qui demeurent d'ailleurs. Aucune n'a été quelque part évincée ou rejetée. Et je vais essayer de vous en donner les deux et de vous montrer peut-être vers celle laquelle il faudrait, à mon sens, peut-être tendre plus encore. Je vous donne une première, je ne les classe pas forcément dans un ordre précis. Une première interprétation qui a été notamment défendue, ça remonte au IVe siècle, par un certain Augustin. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. Beaucoup l'appellent plutôt, suivant nos sensibilités, saint Augustin. Il faut avouer que ce qu'il a dit a influencé beaucoup le protestantisme aussi, au tout début. Donc ne le rejetons pas parce que parfois on l'entend appeler saint Augustin. Mais lui-même a défendu une certaine interprétation, et d'ailleurs beaucoup de réformateurs. Et ceux-là, ces gens-là, pensent que ici l'apôtre Paul exprime bien évidemment, alors je dis bien évidemment, c'est peut-être déjà trop connoté, sa propre expérience de chrétien. Paul ici livre un témoignage. Une expérience évoquant le tiraillement entre le péché qui marque encore ses actes et son cœur, qui désire de l'autre côté obéir à Dieu. J'aimerais obéir à Dieu et je n'arrête pas de pécher. Je m'efforce d'obéir à Dieu et je continue malheureusement de pécher. Paul se livre. Cette interprétation fut, pour là je vous donne un témoignage personnel, la mienne pendant longtemps. C'est comme ça que je l'ai compris, souvent, depuis un long moment on va dire. Je vous donne et je vous pose la deuxième interprétation. Alors, juste pour vous dire un petit peu ceux qui aussi l'ont soutenu, très rapidement. Là aussi, ce sont des vieux bonhommes, ceux qu'on appelle, alors pas tous, je ne vais pas les citer là, mais les pères de l'Église. Ceux qui ont vraiment été parmi les premiers conducteurs de l'Église, ceux qui ont essayé de redire la foi dans cette culture qui tout d'un coup recevait l'Évangile aussi. Mais aussi des théologiens beaucoup plus contemporains, notamment une personne que j'ai croisée et connue, que d'ailleurs plusieurs d'entre vous ont eu l'occasion d'entendre il y a de cela quelques années, ce cher Henri Blocher. Et ceux-là, dans cette autre interprétation, disent que ce passage de Paul nous permet de voir que l'apôtre, ici, ne livre plus un témoignage, mais apporte l'illustration de ce qu'il dit au tout début du chapitre. Alors certes, nous ne l'avons pas lu là, mais il apporte l'illustration de ce qui est à propos de l'échec inévitable et désespérant de toute tentative de se justifier devant Dieu par l'obéissance à la loi. Je réexplique, c'est un peu long, mais ici, ces autres personnages, dans leur interprétation, pensent qu'il ne s'agit plus d'un témoignage, mais d'une illustration de ce que Paul dit précédemment. C'est-à-dire, il illustre l'échec inévitable, désespérant, de toutes nos tentatives humaines de vouloir se justifier devant Dieu en essayant par nous-mêmes d'obéir à sa loi. Voilà. Alors, j'en ai donné les deux, je ne vous invite pas à me les répéter, mais j'espère que vous en avez retenu l'essentiel. Très honnêtement, la première interprétation, celle que je vous ai dit, celle de l'ordre du témoignage, Paul se livre, est très présente dans l'esprit de beaucoup. Je vous l'ai partagé, c'était la mienne pendant longtemps. Et notez que d'ailleurs, au vu de ce que nous pouvons voir, notamment dans les cercles des biblistes, des théologiens, mais aussi très certainement dans maintes églises et familles d'églises, c'est une interprétation que beaucoup de chrétiens adoptent. Paul, ici, livre et dévoile ce qui est son combat de tous les jours, incessant. Il continue de pécher et il n'y arrive pas. Quelque chose qui dit sa désespérance. Voilà un peu ce qui en est de cette interprétation, là où elle est accueillie. Elle est encore beaucoup, beaucoup représentative de ce que nous pouvons comprendre là, dans l'esprit de beaucoup d'entre nous. Mais notez une chose, c'est que si peut-être une majorité de chrétiens adopte cette interprétation, ça n'est pas parce qu'une majorité l'adopte qu'elle est forcément meilleure. La démocratie en termes d'interprétation biblique n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on vote plus pour l'une que c'est la bonne et la meilleure. Ça n'est pas ça qui fait la chose. Il est vrai que notre passage de ce matin est souvent d'ailleurs cité à l'appui de la lutte que nous ressentons en tant qu'enfants de Dieu, dans notre désir de vouloir lui obéir. Ce sont peut-être d'ailleurs pour vous, pour certains d'entre vous, des versets que peut-être qui reviennent, ressurgissent peut-être dans vos temps de prière et autres, liés à ce genre de difficultés que nous traversons. Alors, et je reviens à ma question précédente, celle que j'ai posée initialement. Est-ce bien là le propos de l'apôtre ? Est-il en train de se dévoiler et de dire à quel point, pour lui, d'obéir et de répondre à la loi est quelque chose qui lui semble très difficile et que incessamment il se loupe. Alors, essayons de l'examiner, cette interprétation. Cette interprétation a des arguments, en sa faveur. Tout d'abord, et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'apôtre s'exprime au présent. Il ne dit pas « autrefois, avant, etc. » Quand j'étais encore un pharisien parmi les pharisiens, j'espérais servir Dieu et je faisais que n'importe quoi. Ça aurait été facile, mais là, il ne le dit pas. Il le dit bien au présent. Et de plus, comme on l'a évoqué aussi, il s'exprime à la première personne. Il dit « je ». Moi, Paul, je. Bon, il ne le dit pas tout à fait comme ça, d'ailleurs. C'est peut-être la nuance à observer. Autre chose, il dit bien qu'il aspire à faire le bien. Il prend plaisir à la loi de Dieu. Et ce n'est pas rien, ce qu'il dit là. Ce qui nous éloigne de l'idée de l'expérience d'un non-chrétien. Ce ne sont pas forcément les propos d'une personne qui ne connaît pas Dieu, se fiche totalement de son existence et essaie de faire ce qui lui semble bon et juste. Il lie cela, bien sûr, à la volonté de faire plaisir à Dieu. Et pour finir, on note encore la similarité apparente de son propos avec ce qu'il dit d'ailleurs en Galates 5, verset 4. Qu'il a, s'adressant à d'autres chrétiens, aux Galates, évoque aussi l'impossibilité de faire le bien. Et je vous reprends ce verset-là, de Galates 5, verset 4, qui dit « Vous qui cherchez à être déclarés justes par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés de Christ. Vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. » Ça y ressemble. Alors que peut-être ce verset aussi peut servir ailleurs. Mais j'y reviendrai peut-être. Comme je l'ai dit plus tôt, ce fut là ma compréhension, ma conviction quant aux paroles de Paul dans ce passage. Mais d'y revenir et d'écouter d'autres frères dans la foi, certainement plus éclairés que moi et plus inspirés que moi, m'ont aidé, moi, à cheminer aussi et à oser entendre ce que dit Paul et à ne pas, quelque part, vouloir lui plaquer à tout bout de champ ce que j'avais cru comprendre jusqu'ici. Et de m'autoriser à dire, Seigneur, montre-moi si c'est bien là ce que tu dis. Me suis-je, quelque part, peut-être un tout petit peu égaré, trompé ? Et je repose ma question, est-ce bien là le propos de l'apôtre Paul ? Ne peut-on entendre qu'ici, Paul ne parle pas de l'expérience chrétienne ? En tout cas, pas de l'expérience chrétienne normale. Et j'insiste bien sur le qualificatif de normal. Que faut-il entendre par là ? Tout d'abord, accordons-nous sur le fait que l'emploi du « je » par Paul ne signifie pas obligatoirement qu'il donne un témoignage. Peut-être qu'aujourd'hui, quand nous le faisons, pour nous, ça sonne obligatoirement comme témoignage, mais au temps de Paul, dire « je » dans une lettre, dans un écrit, peut être aussi source d'autre chose. Bien sûr, c'est bien la première personne du singulier, mais Paul ne nous renvoie pas obligatoirement un témoignage personnel. Ce « je » peut être tout à fait compris, et c'est comme ça que je vous le propose ce matin, comme un jeu rhétorique, un phénomène littéraire courant à cette époque-là. Or certes, nous ne sommes pas ni grecs ni romains, nous ne vivons pas au premier siècle de notre ère, donc peut-être cet emploi-là, nous l'avons perdu, nous ne le connaissons pas beaucoup, mais entendez, et croyez-moi, que le jeu peut aussi servir à toute autre chose, quand on écrit et qu'on dit quelque chose. Parfois cela existe encore, même si c'est beaucoup plus rare. Mais le jeu permet parfois de rejoindre l'auditeur, et non pas de dire « moi je vous parle et je vous dis quelle a été mon histoire », mais « je » qui dit ce que nous sommes tous, plus ou moins, et qui cherche à interpeller. Et par ce jeu qui joue donc de la rhétorique, Paul vient désormais préciser l'affirmation des versets 11 et 13 de ce même chapitre de son épître, qui évoque l'effet de la loi sur l'homme pécheur. Alors je reprends ces versets 11 et 13 que nous n'avons pas lus tout à l'heure, où Paul dit ici « En effet, le péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, m'a trompé, et par lui m'a donné la mort. Ainsi donc, la loi est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu synonyme de mort pour moi? Certainement pas. Au contraire, c'est la faute du péché. Il s'est manifesté comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et ainsi, par l'intermédiaire du commandement, il montre son caractère extrêmement mauvais. Ça, c'est ce qui précède ce que nous avons lu. Les derniers versets avant le passage que nous avons partagé ce matin. Autrement dit, notre passage fait donc suite à cela, à ce que nous venons d'entendre maintenant. Et Paul ici, donc, comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, dans la deuxième possibilité de le comprendre, apporte une illustration de ce qu'il vient de dire, notamment ici dans ces versets 11 à 13. Une illustration effectivement particulièrement poignante de l'effet de la loi sur l'homme pécheur. Voilà ce que provoque la loi sur l'homme pécheur. Ce qui était d'ailleurs la vocation de la loi. Ce que d'ailleurs les réformateurs ont dit aussi autrefois. Paul ne parle pas donc ici de l'expérience chrétienne, de son expérience chrétienne, en tout cas pas de l'expérience chrétienne normale, d'un homme ou d'une femme qui avance, qui chemine avec ses hauts et ses bas, mais qui vit sous la conduite de l'Esprit. Si un autre élément permet d'appuyer cette autre interprétation, celle d'une illustration de l'effet de la loi sur l'homme pécheur, c'est aussi la progression même que Paul nous offre dans sa lettre aux Romains. Alors, on ne l'a pas tout lu ce matin, mais en effet, Paul, dans le chapitre précédent, Romains 6, va décrire avec beaucoup de force et d'arguments le rachat par l'œuvre de Jésus. Il va dire qu'il l'a fait une fois pour toutes. Ce sont des paroles très fortes. Il explique ce qu'est la rédemption, le rachat que Dieu, par la personne du Fils, a provoqué, a fait en allant mourir à la croix une fois pour toutes. Et ça, c'est ce qu'il affirme avec beaucoup de force dans le chapitre qui précède. Et cela continue encore après dans l'affirmation de ce rachat dans le début de ce chapitre 7. Il va continuer de le dire. Il va affirmer que, en raison de ce rachat, en raison de cette rédemption, l'homme se voit libéré du régime de la loi. Or, pourquoi Paul, tout d'un coup, après avoir parlé du rachat que Christ a opéré à la croix, puis que cela libère l'homme du régime de la loi, pourquoi Paul, après avoir appuyé cela avec beaucoup de force, et aller relire par exemple Romains 6, un de ces quatre, sur le rachat de la vie du chrétien par Christ, Paul viendrait alors tout à coup à parler du chrétien comme vendu esclave au péché? C'est ce qu'il dit au verset 14. C'est déroutant, là, on perd pied. On a l'impression de marcher sur quelque chose qui nous invite à monter, à grandir, un appui solide. Dieu nous a rachetés, tout d'un coup vous êtes vendus comme esclaves au péché. Votre vie chrétienne, c'est ça. Dans la vie de tous les jours, vous commettez des erreurs et vous êtes comme vendus esclaves au péché. Alors là, on se dit, attends Paul, où j'en suis là? Qu'est-ce qui se passe? Je suis racheté, mais quand même vendu, comme vendu. Que dois-je comprendre? Alors, ça déboussole. C'est pour ça d'ailleurs que ce passage nous frappe en général. Notez encore que dans notre passage de Romains 7, 14 à 25, Paul jamais ne mentionne l'œuvre de l'Esprit, qui pour lui, de toute façon, va de soi avec la marche chrétienne, avec la vie chrétienne. Très souvent ça apparaît, d'une manière ou d'une autre. Alors, bien sûr, on l'entendra après au chapitre 8. Mais aussi, alors, et je reviens un peu sur mon questionnement premier, qu'avons-nous réellement dans la suite de ce chapitre 7? Alors, vous sentez bien que je vais m'attarder sur la deuxième interprétation. Nous entendons là. Alors, c'est très répétitif. Paul n'arrête pas de parler d'échec, de volonté de plaire et à chaque fois d'échouer, de vouloir faire le bien et de constamment faire le mal. Et il n'arrête pas. Ça se répète. Nous entendons là, effectivement, de manière répétée, que l'homme, bien que cherchant à obéir à une loi considérée comme bonne et juste, ne peut qu'échouer misérablement et inlassablement. En fait, Paul ne nous parle pas de la lutte que vivrait tout chrétien. Ce texte parle d'une chose bien différente, celui de l'échec, de l'homme livré à lui-même. Ou suivant vos versions, dans ces premiers versets, de l'échec de l'homme charnel. Bon, j'aime pas trop cette expression qui existe beaucoup, notamment dans la Bible de la traduction seconde, mais elle ne s'explique que difficilement. Allez l'expliquer à quelqu'un dans la rue. Tu es un homme charnel. Il ne va pas le comprendre dans le sens de ce que Paul veut dire. Et ça nous oblige à revenir sur ce qu'il dit, justement. Ainsi, il n'est donc pas question d'une lutte, d'une vie ordinaire chrétienne avec ses hauts et ses bas, mais bien d'un échec qui aboutit au désespoir, un échec dont seul Christ peut nous délivrer. C'est le cri final dans ce verset 24. Et pourtant, même le verset 25, à nouveau, assombrit le portrait. L'une comme l'autre des interprétations que je vous ai rapidement proposées possède pour l'une comme l'autre de solides arguments. Mon souhait pour vous n'est pas de trancher le débat, même si vous voyez d'où à où je suis. Allez, moi, dans ma vie personnelle, à vous de cheminer, hein, je ne vous l'impose pas. Mais je ne peux que vous exhorter à sonder les Écritures à nouveau, en vous donnant encore quelques clés. Ce que j'ai à cœur de vous dire maintenant, ça concerne surtout l'enjeu de l'interprétation de notre texte. Car plus que de trancher dans un sens ou un autre, il est nécessaire de comprendre les répercussions que peuvent avoir l'une ou l'autre de ces interprétations. Vers quoi elles nous font avancer, vers quoi elles nous encouragent, ou pourraient peut-être même à venir nous décourager, ou nous amener dans certaines difficultés ou pièges, en raison de nos propres petites difficultés personnelles, dans notre manière aussi de réagir face à tout ça. Notez bien que l'interprétation considérant que Paul décrit son expérience chrétienne, donne son témoignage, c'est-à-dire cette lutte face au péché, cette lutte quotidienne face au péché, comporte un danger, dans son application. Attention, je ne dis pas qu'on tombe tout le temps dans le panneau, mais le danger est grand. Or, quel est le danger qu'il peut y avoir dans cette manière de comprendre Paul? Peut-être vous le voyez déjà. Très simplement, celle de voir la vie chrétienne comme une lutte permanente et épuisante. Parce qu'à lire Paul, c'est très sombre ce passage. Et si nous le voyons vraiment sous cet angle, on se dit « Paul vit cela !» Et quand nous avons nos propres difficultés, en se disant « Mais Paul a vécu tant de choses, moi, comment puis-je y arriver si Paul n'y arrive pas ?» Enfin, ça ne dit pas qu'il n'y arrive pas, mais quand même, le portrait-là est très sombre. Or, que nous puissions vivre de tels combats est incontestable. Et comme le souligne d'ailleurs Henri Blocher, cela peut nous conduire dans certaines situations à vivre quelque chose de semblable à ce que Paul dit par ces mots si forts. Et il faut l'entendre. Mais attention d'aller trop loin en ce sens, et c'est là que vient le piège. Car si cela doit être compris comme correspondant à l'expérience normale, habituelle et permanente, je garde bien les trois, hein, normale, habituelle et permanente de la vie chrétienne, cela me semble alors dangereux. Devenir un piège pour notre vie de foi et pose honnêtement de véritables problèmes. Alors pourquoi je me permets de dire cela et de l'affirmer? Il me paraît qu'une telle vision d'une vie chrétienne qui semble être normale et vécue comme Paul le décrit ici nous pousse à ramener le curseur sur nos œuvres et nos efforts plutôt que sur l'œuvre pleinement accomplie de Christ. Parce que nous pouvons venir à nous poser la question, alors quand les choses ne vont pas, est-ce que je lutte assez? Est-ce que j'en fais assez? Parce qu'après tout, si ça ne va pas, c'est de ma faute. Alors je me dois d'être plus fort. Et là, on s'éloigne de quelque chose qui est quand même fondamental à mon sens, la grâce. Chose qui d'ailleurs est d'ailleurs amplement défendue et argumentée tout au long de l'Épître aux Romains. Et s'il y a bien quelque chose sur lequel il veut insister là-dessus, c'est ça. Or si notre raisonnement, c'est pour petit à petit l'évacuer, nous allons à l'envers de ce que Paul n'arrête pas de dire dans toute l'Épître aux Romains. Pire encore, toujours pour saisir le danger d'une interprétation quand on la pousse trop loin, cette lecture, d'entendre là comme l'expérience normale, habituelle et permanente de la vie chrétienne, cette lecture peut laisser à penser aussi que le péché est une composante normale de ma vie. Et c'est là où vraiment le danger est fort. Que le péché fait partie intégrante de notre vie. Je veux faire le bien, malheureusement je vais pécher. C'est normal. On peut en aboutir presque à cela. Et c'est là que ça devient problématique. De croire que le péché fait partie intégrante de notre vie, qu'il nous faut composer avec lui, et autrement dit, presque l'accepter au lieu de le considérer comme radicalement étranger à notre nouvelle identité en Christ. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que plus jamais nous ne péchons. Il y a une sacrée nuance, hein. Mais attention à ce danger-là, de se dire, au vu de ce que Paul dit, de toute façon, je vais vouloir faire le bien, mais je vais pécher, donc c'est pas grave, je vais tenter, mais je pêche, et puis voilà, on continue, et puis, en gros, on s'en fout un peu, quoi. J'exagère, mais le danger est fort. Alors, après vous avoir peut-être fait pas non peur, mais j'aurais mis en garde, ne me faites pas dire aussi ce que je n'ai pas dit. N'en oublions pas la part de notre responsabilité et de l'effort que Dieu attend de nous. Notre persévérance nous pousse à avancer sur le chemin de la sanctification. Je ne vais pas développer plus là-dessus, on aura toute occasion d'en partager encore un jour un autre message, une autre exhortation, et nous l'avons fait déjà, mais cela sera toujours important. Mais cette persévérance, bien qu'elle soit le fruit de la grâce de Dieu, et j'insiste bien, la persévérance chrétienne est d'abord le fruit de la grâce de Dieu. Elle repose aussi sur notre responsabilité à rechercher sa volonté au jour le jour. Et malheureusement, ces efforts-là, qui viennent de nous, qui viennent de notre responsabilité, sont bien souvent assortis d'échecs. Car nous demeurons pécheurs, bien qu'ayant reçu l'assurance du salut. Ce qu'il dit au chapitre 6. Mais ces efforts ne se situent pas dans le contexte d'une lutte à mort, d'un combat incessant, perpétuel, jusqu'au bout. Mais ils s'inscrivent davantage dans une victoire déjà accomplie, celle du Christ à la croix, qui me donne l'assurance définitive que la victoire m'est acquise, non pas en raison de moi, mais en raison de ce qu'il est et a fait pour moi. Entendez-le bien, et je veux insister là-dessus parce que c'est le message de Paul dans toute l'Épître aux Romains. C'est cette foi-là, ce salut qui nous est donné, ce salut qu'on qualifie parfois dans sa dimension objective. Elle est la part de Dieu pour moi, ce que je ne peux de toute façon modifier, sur lequel je ne peux interférer parce qu'il l'a fait et il me l'offre. En quoi je puis changer ça? Mais aussi avec l'éclairage que peut nous offrir une plus juste interprétation de Paul dans ce passage. Et j'y reviens. Et notamment pas que Paul dans ce qu'il dit ici, dans ces quelques versets, mais aussi du témoignage global des Écritures à propos de la vie chrétienne. Et pas seulement d'ailleurs dans le Nouveau Testament, mais on peut aussi l'entendre dans l'Ancien Testament. J'aimerais vous exhorter à considérer plus encore notre existence et notre cheminement dans la foi en Christ selon cette perspective, selon l'illustration que Paul donne. Non pas un témoignage, mais celle de l'illustration. La foi reçue par grâce, entendez-le bien, nous communique, nous donne, si vous préférez, une identité nouvelle. Celle qu'on appelle, très souvent d'ailleurs, et à juste titre, l'identité en Christ. Et cela n'est pas sans conséquence pour chacun d'entre nous. Non seulement parce que nous avons reçu cette identité, nous vivons dans la liberté de vie. Et ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas une vaine expression. Vivre dans la liberté de vie, ça veut dire pour moi, tel que je veux vous le dire là encore, que nous sommes libérés de toute condamnation. Mais de surcroît que nous vivons sous la conduite accompagnée de l'Esprit-Saint. La conduite accompagnée, vous pouvez poser le macaron sur votre dos en disant « je suis accompagné ». Or certes, il me laisse le volant et les pédales, je ne vous garantis pas que les premiers créneaux vont être les meilleurs, mais je suis accompagné. L'Esprit-Saint est à côté. Or, plus vous l'écoutez, plus vous avez de chance de bien rouler avec lui. Si vous faites un peu la sourde oreille, « Oui, j'ai eu mon permis, je sais comment on fait, mais je vais te montrer ce que c'est. » Qui a fait la conduite accompagnée ici? C'est un peu pour les plus jeunes, bon, les plus jeunes, les débuts des vieux, comme moi. Moi, j'ai connu ça. Première fois, petite expérience toute bête, première fois où j'avais le droit au volant, il n'y avait plus personne à côté de moi. Je descends là, dans la grande ville de Morlaix, à 50 mètres pour descendre là. Premier rond-point, je suis tout fou, je freine un peu tardivement, pac, je touche le pare-choc de la voisine de devant. tout léger. Elle n'a pas eu besoin de sortir, elle n'était pas effrayée, etc. La conduite accompagnée n'avait pas encore suffi pour moi. Il me fallait encore prendre patience, savoir être plus calme, etc., etc. Mais voilà, l'Esprit Saint, c'est à l'image de cette personne qui se fait présent à côté de nous. Il va nous laisser le volant, il va nous laisser les pédales. Alors peut-être qu'il a un jeu de pédales au cas où et pouf, il va mettre un coup de frein quand vraiment on va en faire de trop, mais il nous invite à l'écouter. Ça ne va pas dire qu'on va tout faire comme il faut dès le départ. Autrement dit, cela ne signifie en aucun cas que parce que nous avons reçu cette identité en Christ, que la vie devient rose, car des luttes et des combats seront toujours présents. Et là-dessus, je n'ai pas besoin de vous faire une illustration. Je pense que chacun, dans nos existences, nous en avons certainement déjà connu, des petites ou des grandes luttes, espacées ou parfois répétées, mais elles sont présentes. Mais celles-ci nécessiteront notre vigilance et plus encore notre acceptation de nous appuyer continuellement sur le secours gracieux de Dieu. Parce que ce que Paul veut justement illustrer, c'est que parfois, dans notre vie chrétienne, nous voulons compter sur nos propres forces. Nous voulons accomplir le bien de Dieu en voulant essayer d'appliquer ses lois. Et autrement dit, de faire ce que déjà les Galates essayer de faire, en raison de mauvais enseignements qu'ils avaient reçus. Et à Rome, ça commençait à faire chemin aussi. Et je suis persuadé que nous pouvons vivre aussi dans ce danger-là. Il est perpétuel dans nos existences chrétiennes, dans nos communautés. Peut-être avec un léger soupçon de plus dans nos communautés évangéliques, qui ont pour force de prendre les Écritures pour ce qu'elles veulent dire, mais avec le danger que nous pouvons parfois les prendre trop à la lettre et de mal les comprendre. Autrement dit, de nous faire un peu parfois trop légalistes, de vouloir obéir à la loi parce qu'il faut obéir à la loi, sans vouloir faire confiance à Dieu pour que nous puissions y parvenir. Je ne vais pas être beaucoup plus long, mais j'aimerais finir sur des paroles qui, j'espère, vous réconcilieront avec ce que j'ai essayé de vous dire. Parce que nous avons reçu cette identité en Christ, que nous avançons sous la conduite de l'Esprit-Saint. Après, c'est à nous d'apprendre à l'écouter. Hein. C'est ça l'apprentissage qui nous attend. Attendons-nous à des victoires? Oui. Car elles nous viennent de lui, non pas de nous. Je ne sais pas si vous avez des gros bras ou si vous avez un esprit surpuissant. Je ne suis pas qualifié pour les bras et ma tête ne va pas beaucoup mieux, croyez-moi. Je sais que je ne peux pas compter sur moi. Quand je le fais, je suis profondément déçu. Et à chaque fois que je le retombe, ça me retombe dessus. Parce que je rentre à nouveau dans ce que j'entends chez Paul. Mais quand je fais confiance à Dieu, que j'évite de venir avec mes propres accents, mes traits de caractère forts, là où même je me crois fort, moi, et bien si je lui fais davantage confiance, que je prends patience, ces victoires, je les vois davantage. Parce qu'elles viennent de lui. Et même si ces victoires ne nous sembleront pas peut-être forcément flagrantes, grandiloquentes, voire même nombreuses, attendez-vous à son secours. Oui, attendez-vous à son secours. Mais il n'empêche, voilà, nous aurons aussi certainement de temps à autre, c'est le temps de l'apprentissage, nos propres reculades. Car cette nouvelle identité en Christ, nous la discernons, parfois encore mal. Et nous manquons d'assurance quant à cette grâce imméritée. Autrement dit, nous n'écoutons pas toujours suffisamment celui qui est à côté de nous, sur le siège passager qui nous dit vers où nous pouvons continuer d'avancer pour trouver le chemin qui est sûr, celui qui nous plaît et nous invite à aller vers la rencontre de Dieu plus encore. Oui, évidemment, dans ce que Paul dit, je le rejoins, notre péché nous cerne. C'est ce que d'ailleurs nous rappelle, c'est pas forcément Paul, mais l'Épître aux Hébreux, dans son premier verset du chapitre 12, on ne va pas le lire là, mais oui, le péché nous cerne et nous atteint encore régulièrement, à n'en point douter. Et d'ailleurs, Jean, dans l'une de ses épîtres, quand il dit « je ne pêche plus », mais il le dit aussi juste à côté, tout dans sous son contraire, il veut bien montrer que la vie chrétienne est loin d'être simple. Nous sommes appelés à courir en gardant les yeux fixés sur Christ, plutôt qu'à nous engager dans un pugilat spirituel sombre et désespérant où on espère compter sur nos poings et nos propres forces. Car ce serait là le plus grand des dangers. Et c'est ce que Paul ici veut dénoncer, là où il veut nous mettre en garde, parce que nous allons nous épuiser et en plus nous allons échouer. Christ, si nous voulons lui faire plus confiance, nous invite quelque part à nous reposer sur lui et à avancer de victoire en victoire, malgré aussi nos propres reculades qui vont parfois ponctuer un peu vers le bas tout cela. À vous de choisir. Mais voyez, d'un côté, vous allez essayer de faire des choses, vous allez vous épuiser et vous faire mal, parce que vous allez regarder à vos propres forces. De l'autre côté, il y aura aussi des douleurs, parce que voilà, nous vivons dans un monde pécheur et nous le demeurons nous. Mais nous aurons l'assurance de victoire, parce que c'est lui qui nous conduira. Et pour vraiment conclure, de vous dire encore ceci, plus qu'une vie de lutte, il y en a, hein, mais plus qu'une vie de lutte, la vie chrétienne est une vie d'aspiration. Là, ce n'est pas de moi, hein, je le reprends, je le trouve très bien dit. Une vie d'aspiration, de soupir, entre guillemets, à l'image de ce qu'il va dire juste après, en Romains 8, verset 23, si vous avez le temps de noter cela. Oui, la vie chrétienne est une vie d'inspiration, de soupir, face au décalage encore présent entre ce que nous sommes en Christ, cette réalité qui nous a été donnée, et ce que nous vivons au quotidien. Nous soupirons, mais nous espérons aussi. Et savons que tout est accompli en celui qui nous a déjà libérés. Amen. Que nous puissions peut-être simplement faire silence en nous, pourquoi pas même de nous incliner un instant.